Radio. Enjoy this music. Music. This is Fun Radio. Larabel Rose and Friends. Larabel Rose and Friends. 20h, 23h sur Fun Radio.
Est-ce qu'on n'aurait pas reçu une bonne nouvelle? Il se pourrait que la guerre des 12 jours soit en suspens. Je transmets l'info que je viens de recevoir. C'est quand même une bonne nouvelle sur la planète Terre, j'ai envie de dire. On était un peu suspendus aux missiles et aux lèvres déchaînées de Donald Trump. Well, damn, quel spectacle horrifique. J'espère que vous avez passé une bonne journée, les amis, mardi, sur notre belle planète, où il reste encore beaucoup de choses à faire, il reste encore de l'espoir, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? J'espère que vous l'avez trouvé aujourd'hui, la petite porte par laquelle vous avez pu vous échapper, trouver la petite lumière dans votre brouhaha. En tout cas, nous, on est là à 20h03, on est là ensemble jusqu'à 23h, oui, je dois me le rappeler, on est là jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 23h. C'est l'avant-dernier mardi de cette saison qu'on passe ensemble, en équipe, avec nos artistes chéris, avec nos marathoniens chéris, puisque je vais vous les présenter, mes invités. Mais d'abord, je vais dire bonjour à Jeanne. Comment va Jeanne?
Bonsoir, ça va et toi?
Mais ça va bien, c'est vrai que je dis bonjour. J'ai beaucoup de mal. Je croise des gens qui rentrent chez eux ici, chez IPM, chez Fun. J'ai toujours tendance à dire bonjour et me répondre bonsoir. J'ai bonjour, bonsoir.
Bah, bonjour, bonsoir, oui. Il y en a qui commencent la journée, d'autres la terminent.
Le chassé croisé. Mm-hmm. Comment s'est passée ta journée, Jeanne?
J'ai passé une très bonne journée.
Qu'as-tu fait?
Surtout que je vais manger des sushis jeudi et donc voilà, je ne pense plus qu'à ça.
Dites un rendez-vous, genre un restaurant, ouais. Et tu penses qu'à ça. Je comprends.
Ouais, avec ma grand-mère en plus. Donc,
c'est
du bonheur.
Ouais, mm-hmm. T'adores ta grand-mère en plus.
J'adore mes grand-mères. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir deux grand-mères extraordinaires.
Oui, qui sont là aussi, mm-hmm. C'est vrai. Hein. Franchement, il faut chérir, il faut célébrer. Célébrons la famille et l'amour. T'as une très belle famille, Jeanne, en plus. Vous êtes très unis.
Ça se peut.
Quand même, ouais. C'est beau à voir. C'est mm-hmm. Très, très beau à voir. Je suis très contente de voir ça parce que ça fait partie des petites, tu vois, des petites ondes d'espoir qu'on croise sur le chemin. On se dit, ok, c'est possible. Et si jamais ça se passe mal dans la famille du dessus, on peut être le chaînon qui change mm-hmm. la chaîne.
Il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour faire à sa sauce, on va dire. Elle est là, elle s'occupe de la Fun Vision aujourd'hui, puisque Irène est en examen. Et oui, Irène est aussi étudiante.
Mm-hmm. On pense à toi, Irène. Bonne chance.
Ah oui, bonne chance à toi, Irène, que tout se passe bien. Je ne sais pas si elle a déjà terminé ou si elle étudie pour demain. J'ai pas très bien compris, mais en tout cas, force
non,
à toi, Irène.
C'est ce soir, son examen.
Ah oui, le soir alors.
Ouais, c'est maintenant.
Oh, Irène, que tout se passe bien pour ton examen. On verra demain, on lui posera la question. C'est Shaima qui est aux commandes aujourd'hui. Merci Shaima, comment tu vas?
Bonsoir. Bah, je vais bien, j'ai bien dormi.
Ah donc, ça c'est bien.
Je fais très bien.
Oh, oui, ça c'est
vraiment,
content.
On récupère d'après les examens. Donc,
ah oui, toi aussi t'as eu des examens?
Oui, j'ai eu des examens, mais je les ai finis.
Mais en quoi alors, explique-moi?
En quoi?
Mais sur quelle matière?
Ah,
en quelle section, dans quel secteur, dans quel secteur?
Dans le secteur des relations publiques.
Ah, génial!
De la communication.
Et tu fais ça à quelle école alors?
Là, je suis à l'EPFC.
À l'EPFC, mais écoute, oui. Mais bien sûr, on connaît très bien l'EPFC, l'ISFC, l'IEX, en tout cas.
Ils ont toujours des mots en acronyme,
des acronymes.
Tu vois, un peu.
J'aime beaucoup.
Ouais, l'ISFC, je crois qu'il n'y a personne dans ma famille qui a su le retenir, tu vois.
Pourtant, tu as reçu pas mal de fessées. L'ISFC. Bon, ben, si vous êtes en examen, si vous terminez, force à vous. Est-ce qu'il a passé ses examens? Est-ce que le flow est présent du côté de Percy?
Yes sir. Bonsoir Lara, comment tu vas? Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde.
Mais ça va et toi?
Ça va super.
Percy est dans la place.
Yes go.
Dis donc, quelle belle couleur tu as mis sur toi.
Merci.
Ce violet, c'est pas un violet, c'est un lilas.
Lila. Voilà.
C'est un lilas. On adore le lilas.
C'est rare que les gens ils arrivent à trouver ça direct.
Ah ben quand même, les nuances.
Tu sais à qui tu parles ici.
Oh, Lara Belle Rose and Friends.
Mais justement, c'est pour ça que je vous félicite. Parce que voilà, il y a la nuance des couleurs que vous maîtrisez. Les gens ils disent généralement du mauve.
C'est très intéressant, mais on dit aussi souvent que c'est le côté féminin qui voit toutes les nuances, parce que c'est vrai que, enfin, après c'est une expérience personnelle, je suis mm-hmm. pas en train de cataloguer quoi que ce soit. Mm-hmm. On va dire ok, de ce que j'ai pu expérimenter, les mecs vont dire ouais c'est rouge. Ouais. Et tu vois, mais non c'est vermillon, mais non c'est rouge bordeaux, mais non c'est rouge écarlate. Et du coup voilà, le lilas se trouve, je dirais, entre le violet et le parme.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on en pense?
Exactement. Exactement.
Ça me semble être correct.
Parce que est-ce que le Parme, parce que le jambon de Parme, c'est pas
non c'est pas ça. Mais
couleur
c'est,
Parme.
Le Parme, ouais.
Il y a le Parme, il y a
les
le pains byzantin.
Un peu rouge. Ah non, c'est bien. C'est
non,
ça.
Non, c'est.
Il y a le byzantin aussi. Il y a le Boysenberry. Enfin, il y a plusieurs nuances. Forcément, vu que c'est un peu ma DA, je me suis documenté avant de l'adopter. Donc, il y a énormément de nuances de mauve et de violet. Et elles ont chacune aussi leur particularité. Et moi, le lilas, voilà, c'est ce qui me correspondait le mieux.
C'est chouette. Si j'avais su, j'aurais mis mon t-shirt lilas ce soir.
Tu en as un.
Blanc, truc lilas.
Ouais, ça te va très bien aussi.
J'adore le lilas.
Ah, voilà.
T'es venu accompagné de Samuel, Percy.
Ouais, Samuel, a.k.a. Sa Majesté pour les intimes. Oui, il a un nom.
Bonjour.
Qui a respecté également le dress code. Hein. On est aussi dans du lilas pour la casquette.
Absolument.
Dans du rose, un peu
vieux rose,
tu vois.
Voilà. Voilà, le vieux rose. On a envie de peindre les murs avec cette belle couleur.
Et alors Samuel, Sa Majesté, c'est mon co-directeur artistique, mon co-réalisateur. C'est avec lui que je réalise pratiquement tous mes projets. Et voilà, aujourd'hui, il m'accompagne parce que on a quelque chose potentiel à proposer à un moment.
Akula,
ça c'est moi, mais il y a une autre surprise. Parce qu'Akula, c'est lui qui l'a enregistré.
D'accord. T'es rangé aussi?
Oui, ouais.
D'accord.
Beaucoup de choses.
Donc, et vous travaillez depuis longtemps ensemble?
10 ans, maintenant.
10 ans? Ah ouais, non, là, c'est une affaire qui roule, là.
ouais.
Pas mal.
Donc, c'est un peu, c'est pas un peu, c'est mon binôme musical, vraiment. Ça veut dire que moi, je suis plus dans tout ce qui est, auteur, tout ce qui est écriture, tout ce qui est top line, réalisation aussi. Et lui, il me complète dans tout ce qui est technique, tout ce qui est ingénierie du son, tout ce qui est réalisation improprement dit. Donc, ça veut dire que si mon morceau il est pas posé correctement, il va me rediriger au niveau de la diction, au niveau de l'interprétation, parce qu'il trouve que l'émotion est pas assez bonne. Donc, on se complète vraiment sur ça.
C'est une vraie direction, une vraie vision, et l'union fait la force,
voilà.
Quoi.
Et moi, donc, je m'occupe vraiment plus de tout ce qui est auteur et visuel. Mm-hmm. Et lui, c'est plus tout ce qui est technique et réel. Et donc, vraiment.
C'est une bonne combinaison.
Ouais. Donc, les gens, ils me voient moi, mais derrière moi. Il y a énormément de.
On n'est pas tout seul, Alors, il y en a un qui est quand même, je vais dire, en tout cas, dans sa discipline, seul, avec lui-même, avec son mental, avec sa force physique, c'est Sébastien Maya. Bonsoir, Sébastien.
Hello, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir. Sébastien, je suis hyper contente que tu sois là dans cette émission. On se connaît depuis très longtemps. Percy aussi, hein. On se connaît depuis très longtemps. Sébastien, voilà. Je suis contente de pouvoir ouvrir un espace ici où on peut faire merger les mondes et les univers. Sébastien, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un marathonien de l'extrême. J'ai envie de t'appeler comme ça. Est-ce que tu m'autorises?
Oui, je te donne l'autorisation. Il n'y a pas de souci.
Écoute, Sébastien, tu es partout. Sur toute la planète. Tu cours.
Dans tous les niveaux d'altitude.
Dans tous les niveaux d'altitude, absolument. Tu fais des courses extraordinaires à New York, plein d'endroits du monde, en Belgique évidemment. Et à chaque fois, tu es sur le podium.
Assez souvent, on va dire. Mais là, contrairement un peu à l'équipe, au niveau du sommeil, c'est un peu le contraire. Je n'ai pas vraiment beaucoup dormi, mais je vais essayer de tenir jusqu'au bout de l'émission.
Parce que tu reviens de...
Mais de New York, pour les personnes qui connaissent cette ville. Et donc, oui, j'ai passé un petit week-end à New York, 48 heures sur place. Et sur les 48 heures, j'ai fait deux compètes. Ça a été un peu du non-stop, mais ça va aller.
Deux compètes. Alors, deux compètes, mais pas deux marathons. C'est-à-dire, c'est, moi, c'est vrai que je t'appelle le marathon parce que on a l'impression que c'est quand même la distance la plus longue en endurance, quoi. 42 kilomètres.
En fait, effectivement, c'est ça d'une manière officielle. C'est la plus longue, par exemple, les Jeux Olympiques. C'est vraiment la plus longue qui est officielle, 42 kilomètres. Mais sinon, on peut faire, on va dire, des kilomètres à volonté.
Tu as fait des 100 kilomètres et des courses extraordinaires d'endurance de dingue.
Oui, c'est ça. Et donc, les deux compétitions que j'ai courues ce week-end. Donc, j'ai fait un 100 kilomètres et puis j'ai fait un 21 kilomètres le lendemain.
Moi, je me lève de mon lit, je marche jusqu'à ma salle de bain. Parfois, j'ai déjà des courbatures, tu vois.
Moi, je vais chercher ma livraison Uber Eats, je suis fatiguée. Wow. Je suis fatiguée juste de descendre, tu vois ce que je veux dire. Il fait chaud, ouais. Tu dis non, c'est trop.
Et puis déjà, quand tu cours un semi-marathon, ou alors les 20 km de Bruxelles, etc., tu mets parfois longtemps à récupérer. Non, Sébastien, il est là, il fait 100 kilos et le lendemain, rebelote, 20 kilos, comme ça.
Mais c'est vrai qu'effectivement, pour l'anecdote, un vol d'oiseau, on est vraiment à côté du cinquantenaire et c'est vraiment là justement c'est l'endroit lié à la course à pied aux 20 kilomètres de Bruxelles.
Ici, hein, là où on est dans le studio, effectivement,
oui,
en plein Bruxelles.
C'est ça, et donc pour beaucoup de Belges, ça parle à beaucoup de Belges, cette course-là. Et pour les amateurs, pour les néophytes, courir 20 kilomètres, ben, c'est déjà quelque chose. Et même si j'ai une certaine expérience, je peux me mettre à la place des amateurs et que, et 20 kilomètres, franchement, il faut déjà le faire, même en marchant. Franchement, je dis bravo. Donc, voilà, c'est conséquent, mais voilà.
Tu vois, cette humilité. Mm-hmm. Est-ce que c'est ça l'état d'esprit qu'il faut avoir justement pour arriver au bout d'un 100 kilomètres? Être super humble, c'est-à-dire accepter que chaque pas. C'est quoi ta philosophie en fait, Sébastien?
Mais le truc, en tout cas, pour faire un 100 kilomètres ou d'autres distances, mais notamment le 100 kilomètres, c'est vrai que c'est un peu ma came entre guillemets. C'est un mélange évidemment physique parce qu'il faut quand même avoir les jambes pour tenir. Mais en gros, c'est 50% physique et 50% mental parce que il peut y avoir des coureurs bien plus forts que moi, mais avec un mental assez minimaliste. Et en fait, faut pas avoir peur de.
Pas que ton mental te lâche quoi pendant la course. C'est...
En fait, oui, pendant 100 kilomètres, en général, je fais un 100 kilomètres entre 7 heures et 10 heures d'effort. Et il faut se dire que pendant la compète, c'est normal de souffrir physiquement et mentalement. Il faut entre guillemets l'accepter et se dire qu'il y aura des périodes faciles et des périodes un peu plus délicates et
des passages à vide comme ça dans la course et puis ça repart, c'est ça.
Et quelle est la plus grande distance que t'es parcourue, parce qu'on avait vu ou la plus grande durée, là tu dis que tu fais 7 ou 8 heures. C'est pas Riles qui avait fait une course pendant 24 heures.
Oui, tu as vu ça ou pas, Sébastien, le chanteur Riles qui a fait un challenge
pendant 24 heures, il courait avec une scie derrière pour promouvoir un peu
son album,
la nouvelle.
Oui, j'ai vu ça. Ça s'est passé il y a quelques mois et franchement, chapeau. Il y a eu des critiques positives, négatives, mais moi, de mon point de vue de coureur, je trouve ça justement super positif parce que moi. Personnellement, je ne connaissais pas vraiment le chanteur. Et comme il a touché un peu, il est rentré un peu dans mon monde de coureur, ça m'a permis justement de voir qui c'était. Et justement, c'est une manière aussi de promouvoir. Et je pense aussi que les personnes qui écoutent ce chanteur, il y a beaucoup d'adolescents. Et malheureusement, ça c'est aussi un petit message, une petite pique. C'est que je ne suis pas trop fan des trottinettes électriques. Et ça, je pense que c'est entre guillemets un peu le cancer de la société. Les ados actuels, c'est
de ne plus bouger. C'est-à-dire que on prend un moyen de transport rapide qu'on utilise depuis très jeune, on va dire. Et du coup, on a moins ce truc de se dire, OK, j'y vais à pied, OK.
Ouais, même
parce
à vélo,
que, non, hein. On était à pattes toute notre life. C'est-à-dire, maintenant, on s'assied sur des sièges chauffants et des trucs, mais avant, on était à pattes.
Même le vélo, même le skateboard, même les trottinettes qui sont pas électriques, ça reste quand même une
forme sportif.
T'étais quand même en.
Les rollers, les unités, quoi.
Oui, c'est ça. Par exemple, le vélo, ça, y a pas de souci. C'est un sport porté. Bon, il y a quand même un certain effort à effectuer, mais les trottinettes électriques, et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, à Central Park, c'est complètement interdit. Et je pense que, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais en tout cas, je trouve ça triste, en plus en tant que professeur de dessin, je croise chaque fois des ados, et je me dis, c'est un peu dommage cette philosophie, cette manière de... on n'a plus vraiment le goût de l'effort. Et je me dis, les ados, ils ont entre 15 ans et 20 ans, et qu'est-ce qu'ils feront quand ils auront 40 ans, 50 ans j'ai un peu peur pour l'avenir, quoi. Par rapport à ça, petite parenthèse.
C'est intéressant, c'est vrai que c'est intéressant comme point que tu donnes, parce que je sais pas si on y avait déjà pensé à l'effort physique par rapport aux trottinettes, on parle surtout des accidents, tu vois. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu viens de dire, on va évidemment parler de vos parcours respectifs, du côté artistique avec Percy et Samuel, et du côté sportif, mais pas que, puisque tu viens de dire, Sébastien, que tu es aussi professeur de dessin. Donc en fait, c'est ton hobby, la course.
Oui, c'est ça.
Non, je rigole.
En tout cas, que ce soit n'importe quel métier, je pense que c'est important d'avoir une passion qui est un peu contrastée avec son métier, justement.
Mixes les deux, puisque on le sait, en plus, on a été dans les écoles ensemble pendant la pandémie, en plus. Tu mixes justement ta créativité de professeur de dessin et de dessinateur, parce que tu aimes dessiner, et tu, à travers ton dessin, tu parles aux nouvelles générations de ton art sportif. Tu as créé un livre bandeau qui fait 30 mètres de long. Je vous le dis, il faut le voir, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'était autour des JO de Tokyo.
Oui, c'est bien ça, oui.
Voilà.
C'était en 2021 avec le décalage d'un an.
Voilà, parce qu'avec la pandémie, ça a été décalé. Et tu as créé en fait un livre qui fait 30 mètres de long et qu'on déroule livret après livret. Et ça fait une énorme banderole qui est très très longue avec toute l'histoire du marathon, de la course et comment est-ce que ça s'est intégré aux Jeux Olympiques. C'était extraordinaire, c'était un moment magique qu'on a vécu parce que les enfants étaient, une fois qu'en fait tu venais avec ce livre qui était tout petit à la base, parce que quand il est plié sur lui-même, il est vraiment, tu vois, c'est un accordéon quoi. Et quand on l'ouvrait, page, enfin, tu vois, volet après volet, et que le truc devenait immense, éternel, infini, la joie dans les yeux des enfants qui se précipitaient dessus et qui apprenaient, oh regarde le coureur, etc. Et tu mettais toutes les nations, etc. dessus et toute l'histoire du marathon. Enfin voilà, j'ai trouvé que cette approche était vraiment magnifique.
Oui, c'est gentil. C'est vrai que c'était et aussi école après école, ben le livre s'usait assez comment dire, avec quand même pas mal d'usure, mais ça c'est pas grave. On regardait pour qu'il ne se détruise pas au fil des écoles, mais non, c'était vraiment bien. C'est une manière justement d'attirer, comme je disais, les jeunes vers le sport.
Ouais, et oui. Tu le fais aussi avec ta mascotte, ton costume que tu portes dans certaines courses, qui est à l'effigie d'une abeille, puisque tu t'appelles Sébastien Maya. Maya l'abeille, incroyable. M-A-H-I-A. Allez regarder justement sur les réseaux si vous voulez en apprendre un peu plus sur Sébastien Maya. C'était voilà, c'est un sportif extraordinaire. Je suis très contente que tu sois là avec nous et que je pense que tu vas en inspirer plus d'un, peut-être même nous ici autour de la table, à nous, j'allais dire à nous remettre au sport, mais peut-être que là, il faut être honnête, à nous mettre au sport.
Ouais, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, hein, c'est... En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation.
Dit avec grand plaisir. Percy aussi, tu es là avec nous, avec Samuel. Tu vas nous parler de ton projet.
Yes.
Vous allez performer dans cette émission. Vous savez que voilà, c'est tout ce qu'on aime, hein, se poser au coin du feu, au coin de la fontaine, du coup, parce qu'il fait un peu chaud. et écouter nos artistes chéris chanter. On va s'écouter Boris Way, Running Up That Hill. Ah, une petite reprise. C'est lui qui a fait la reprise de Kate Bush. On va écouter ça.
On s'écoute. Je connais pas la reprise, mais j'aime beaucoup cette chanson, la chanson originale.
Écoutez, on l'écoute et puis on voit de quoi il s'agit. À tout de suite.
Y bebida David Guetta. Ya tú sabes cómo va.
À 23h, La Rebelle Rose and Friends sur Fun Radio.
Et donc, on se ferait pas un petit barbecue aussi?
Pendant tout l'été, l'équipe de Fun Radio débarque chez vous.
Mais oui, tous les samedis, avec un DJ Fun Radio, chez vous. Vous avez rien à faire. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout, les amis, avec Colruyt en plus. Attention! C'est super, de quoi il s'agit. On arrive au programme, le barbecue, évidemment, puisque c'est une barbecue party. Des cadeaux, DJ set avec un DJ party fun, que vous adorez déjà, pour mettre l'ambiance. Et puis, la bonne humeur de l'équipe Fun Radio, puisque on n'est pas tout seul, on débarque à 1000. Ouais, absolument, vous pouvez vous inscrire, c'est très très simple. Si vous avez envie qu'on vienne organiser un barbecue chez vous, ça se passe par SMS, c'est 1 euro par message. Attendez, le numéro, c'est au 6322. Vous commencez à le connaître, ce numéro, le 6322 par SMS. Et le code, ben c'est barbecue. Barbecue, pas écrit en entier. BBQ au 6322, 1 euro par message pour votre inscription. Et l'inscription est valable tout l'été. Allez-y, on a envie de venir faire la fête chez vous.
Barbecue ou pas, nous mettons chaque jour nos prix sur le grill. Colruyt, meilleur prix. Pendant tout l'été, l'équipe de Fun Radio débarque chez vous.
Écoutez Fun Radio non-stop et gagnez votre barbecue party pour faire la teuf en famille ou entre amis en envoyant BBQ par SMS au 6322.
1 euro le message.
La radio de votre été, c'est Fun Radio.
Ensemble avec Colruyt. Barbecue ou pas, nous mettons chaque jour nos prix sur le grill. Colruyt, meilleur prix.
Carglass répare, Carglass remplace.
Vitres de voiture endommagées ? Prenez rendez-vous dès maintenant chez Carglass et recevez une trousse à outils gratuite pour toute réparation ou remplacement. Profitez de cette offre. N'attendez pas. Prenez rendez-vous sur carglass.be.
Qui a dit que les voitures électriques n'avaient pas l'air sportives ?
Moi ?
Eh bien, découvrez les BMW M Editions. Des modèles 100% électriques avec kit M Sport inclus. Pour un look dynamique BMW M et un plaisir de conduire incomparable. Qui a parlé d'un essai ?
Moi ?
Il y a déjà une BMW X1 M Edition à partir de 349€ par mois hors TVA en location pour les professionnels. Infos et conditions sur bmw.be ou chez votre concessionnaire BMW.
Sur carglass.be.
Ici, c'est Fun. Fun Radio.
Never met someone who wasn't young once. When the hell did we all learn to hate? Last time that I checked, we bleed the same blood. But we all fall in love in different ways. We've come too far to turn back now. You can twist my words, you can break my stride, but you can't take my, you can't take my. When my colors out till the day I die, 'cause you can't take my, you can't take my pride. My pride.
life isn't always black and white. As long as we always got each other, we can find our way back to the light.
La Rebelle Rose and Friends.
La Rebelle Rose and Friends.
Let's go.
20h, 23h sur Fun Radio.
In the cut top down like shades on.
So good, guy.
And I just broke up with my man like. One ex in the passenger seat, cause I'm done.
Never ever going
down, down, rude boy, get your foot up on my dash. Got all the receipts, now my business move a little bit of heartbreak. A little bit of how could you do that? A little bit of talking out your ass. A little bit of look at what you had, but could not hold, and that's on you, baby, too bad. I'm about to make it hurt as I vroom vroom. Ice cold, how I leave you alone, but please tell your mother I'm a mishap, so.
À 23h, La Rebelle Rose and Friends sur Fun Radio.
J'espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie. On a beaucoup de cadeaux à vous offrir. Restez là, ça va aller de partout. Il va falloir bien tendre l'oreille. Ce pourquoi aussi, je vous invite à bien tendre l'oreille, c'est pour les performances de nos artistes. Aujourd'hui, l'artiste chanteur, puis-je dire chanteur, Percy ?
Bien sûr, bien sûr.
Oui.
Bien sûr, ouais. Enfin, c'est lui qui doit valider. On peut dire chanteur.
Samuel,
oui.
On valide. Ouais. Mais en même temps, je trouve que tu chantes,
ouais,
Percy.
Oui, non, oui. Au début, je l'assumais pas, mais aujourd'hui, oui. Enfin, lui, il me l'a fait assumer, quoi.
Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc un peu pour les rappeurs de.
Ouais.
Je sais pas, de timidité ou t'as de, un peu le truc gênant, genre t'oses pas vraiment dire que tu chantes, comme mais si chanter ouais. c'était réservé que pour
ouais.
une.
Ouais, mais en fait, je crois que ça.
Ou
ça,
alors
ça,
aussi
ça
par rapport au niveau de chant, ouais. c'est-à-dire tu dis ouais, c'est non, ça. Je chante pas voilà. comme les vrais
c'est,
chanteurs.
C'est le syndrome
ou...
de l'imposteur quand même, pas
c'est
mal.
C'est ça.
Ouais. Mais moi, pour... en tout cas, moi, ça a vraiment été ça pendant très longtemps, parce que j'écoute énormément d'R&B, tu vois.
Ouais.
Et genre. Je sais pas, moi, t'écoutes Babyface et puis, lui,
oui,
chante.
Non, ok, d'accord. Oui, là, tu choisis. Tu vas me dire Luther Vandross, tu vas me dire des vrais chanteurs.
Mais tu vois ce que je veux dire. Mais alors, du coup, après, en discutant beaucoup avec lui, j'ai appris aussi qu'il y avait différentes catégories de chanteurs. Et ouais, tu peux te mettre dans une certaine catégorie sans avoir la prétention de chanter comme. Mm-hmm. Et donc, ouais, là, finalement, j'ai accepté que je chante beaucoup, en fait, en vérité, dans mes morceaux aussi. Et donc, on peut dire, ouais, rappeur-chanteur. Ouais.
Et t'as été baigné dans la musique, en plus, depuis ouais. toujours. Ton père est guitariste,
ouais.
merci.
Ouais, mon père, il est guitariste.
Tu es né à Kinshasa.
Ouais.
Donc, ton... Mais écoute, ouais. incroyable. T'es arrivé, du coup, en Belgique...
J'avais 2 ans.
Ah, ok, d'accord.
Ouais,
comme une grosse partie de ta vie
Ouais, non,
ici.
En fait, moi, j'ai juste eu le temps d'apprendre la langue.
Le lingala.
Voilà, le lingala, de m'imprégner de la musicalité, en fait. Et puis je suis arrivé ici, mais c'est quelque chose que j'ai pris avec moi, quoi. Enfin, heureusement, je sais pas, mais heureusement, moi, je suis content de l'avoir pris.
Bah, c'est une richesse.
Parce que ouais, parce que du coup, je connais beaucoup de connaissances et d'amis qui sont nés ici, par exemple, et qui ont pas la langue parce que ils ont pas leurs parents le
oui, c'était
ne
déjà
ne
les troisième génération.
Voilà,
ou
tu sais. Et puis pour l'intégration, les parents voulaient absolument que leurs enfants parlent mieux français qu'eux, néerlandais, anglais. Et pas nécessairement le lingala. Et aujourd'hui, on a un petit peu dans un retour aux sources où on revalorise aussi cette langue-là aussi.
Les racines.
Exactement. Et donc moi, je suis content d'avoir pu l'apprendre et d'avoir baigné dedans parce que justement, c'est une langue très musicale.
Est-ce que tu oui. retournes de temps en temps à Kinshasa?
Ouais, mais enfin plus depuis que je suis papa.
Mm-hmm. Ah, félicitations.
Merci.
C'est depuis quand?
Ça fait 2 ans et demi.
Ah bon,
ouais.
C'est adorable.
Ouais, merci. Bah depuis que je suis papa, moins. Du coup, parce que j'ai moins eu le temps, mais sinon, ouais, les 10 dernières années, j'ai passé pratiquement sur les 10 dernières années, il y a au moins 7 années où j'étais là à Kinshasa.
Ah oui, ok.
7 mois sur 12, quoi.
Ah ouais.
Ah ouais, j'étais.
Même.
Ouais, mais en fait, mes dernières années d'étudiant où j'avais qu'un cours à refaire sur toute l'année, je passais plus de temps au Congo qu'en Belgique, quoi. Bon, je peux le dire, de toute façon, je suis plus étudiant. Donc
mais c'est la belle vie, c'est la Dolce Vita.
Non, c'était cool. Après, c'était long, mais c'était cool. Enfin, je veux dire, ça a été le côté positif de ça. C'est que j'ai pu passer énormément de temps au Congo, m'imprégner de la culture, de la musique. Mon ancien projet, Convalescence, je l'enregistrais à 80% là-bas. Et ouais, ça a été hyper enrichissant, quoi. Ça m'a changé complètement.
Et ça s'appelait convalescence parce que tu avais besoin de revenir de quelque chose de difficile.
D'une rupture amoureuse.
Ah oui.
Ouais, c'était une convalescence.
Une maladie.
Enfin, exactement, en fait. j'ai fait le projet convalescence et puis après j'ai fait antalgique.
Ah oui, donc ouais. On est dans le médical, quoi.
Ouais, et puis après antalgique, j'ai fait pansement.
Ah oui.
Ouais, et après les pansements, on est passé à la résilience. Parce okay. que après la convalescence, on passe à la résilience.
T'étais guéri.
Ouais, là maintenant je suis résilient.
Là t'es résilient, mais tu prends de la hauteur comme un aigle.
Exactement.
Aquila.
Aquila.
Tu t'es inspiré d'un adage latin.
Ouais. C'est Aquila non caput muscas.
Non caput, c'est autre chose.
Ouais, non caput muscas. Ça veut dire tout simplement que l'aigle ne prend pas la mouche. Et en fait c'est une locution que mon père m'a dite à un moment donné. Il m'a dit mais en fait. Quand tu veux prendre de la hauteur dans ta vie, en fait, il faut que t'acceptes que, par exemple, les pattes d'un aigle n'arrivent pas à attraper une mouche.
Mm-hmm.
Et l'aigle ne va pas s'énerver parce qu'il n'arrive pas à attraper la mouche. Il va juste pas calculer la mouche. Mm-hmm. Et donc, du coup, ne prends pas la mouche. D'où l'expression ne prends pas la mouche.
Ah, ça
ouais,
vient de là.
C'est ça.
Mais
en fait.
Non.
Mais si.
Mais tu nous apprends un truc.
Et donc, du coup, en fait, c'est ça. Ne pas prendre la mouche, c'est ne pas laisser une petite chose.
Ouais, t'es pas fait pour attraper des mouches déjà.
Ouais,
il me semble quoi.
Voilà. Et donc
l'aigle.
du coup, c'est un peu ça aussi dans l'état d'esprit dans lequel j'ai fait ce morceau où c'est une prise d'auteur un peu par rapport à la vie, par rapport au challenge que je peux affronter. Et en fait, tout à l'heure, on avait Sébastien ici qui nous parlait de mental et je pense qu'en fait c'est dans tout. Hein. Je veux dire quand t'es dans un obstacle ou dans une épreuve. C'est ton mental qui détermine à quel point l'épreuve est grande pour toi ou pas.
Mm-hmm.
Ça veut dire, tu peux avoir j'ai vu des gens avoir des épreuves de l'extérieur qu'on pourrait croire, mais vraiment dévastatrices. Et mentalement, ils ont réussi à passer outre ça parce qu'ils les ont pas rendues aussi dévastatrices que le commun des mortels l'aurait fait.
Ils n'ont pas laissé les preuves avoir une emprise. Voilà. Ils ont essayé de prendre de la hauteur comme
exactement.
Ce dont tu parles.
Et c'est ça la résilience. C'est qu'est-ce qu'on fait en fait de cette potentielle emprise. Est-ce qu'on se laisse prendre par ça, par le traumatisme, par l'épreuve, ou est-ce qu'on l'absorbe et en fait on en fait une force. Et donc du coup c'est un peu ça.
Mais écoute, que dire? Je note. T'as pas un papier que je note. On va se plonger du coup dans Akula, nouveau single de Percy, ici en live dans cette émission, rien que pour vous, à tout de suite.
Yes, yes. Fun Radio, Lara, Sa Majesté, yes, un. Check. Y'a 10 piges, elle m'a nié pour le mec qui était en BM. 2-3 enfants plus tard, elle revient dans mes DM. Damn. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je voulais faire de toi ma reine, t'as préféré être ça. Ah. J'ai encore la rage des ancêtres sous l'épiderme. Tous les hommes qui battent leurs femmes ne sont que des petites merdes. Cercle fermé, comme un nœud gastrique. Y'a que le destin qui on cède aux caprices. Yes.
L'honneur de recevoir Percy, notre invité ce soir, c'est en temps.
On est ensemble.
Très flow maîtrisé.
Aquila.
Affûté.
Et une Percy Flow. Nouveau single. Percy. 2025. Caviar Music.
Sa mère, hein, qui signifie yes, persévérance. Donc c'est Percy de persévérance.
Ok. Check. Quand je dis Madrid, je parle du Real, pas de l'Atlético. Sur la vie de la Madrid, fuck les politiques bellico. Prendrai pas l'hélico. Tempez tous mes diplômes, puis me casser à Mexico. Si t'as rien à dire, surtout ne prends pas le micro. Aversion viscérale pour tous ces saligos. Hey, t'as jamais bibi dans le bloc. T'as une maison, quatre façades, alors s'te plaît, arrête de mytho. Yes.
T'as mêlé tes études et ta passion pendant plusieurs années.
Percy Flow. Jamais laisser les obstacles prendre le dessus sur votre mental. Prendre de la hauteur par rapport aux épreuves. Prendre de la hauteur par rapport à la vie. Aquila, non capit muscas. Yes sir.
Yes. Merci.
Let's go.
La persévérance, j'ai entendu.
Ouais, c'est.
Nos confrères journalistes qui s'expriment dans ton morceau.
Mais
merci
ouais, c'est,
pour persévérance alors.
C'est le nom que ma mère m'a donné, ouais. En fait, justement, quand je partais au Congo, en fait, y a un truc que je comprenais pas, c'est que quand je rentrais dans le quartier de ma mère, tout le monde m'appelait Percy. Mm. Or que mon prénom usuel, c'est José. Et en fait, je comprenais pas, parce que je me dis, mais pourquoi ils m'appellent tous Percy, en fait? Et puis un jour, y a ma grand-mère qui me dit, mais c'est ton nom. Je dis, mais comment ça, c'est mon nom? Elle me dit, ah, mais tu connais pas l'histoire de ton nom. Ah. Puis elle m'explique, en fait, que mes parents étaient pas d'accord sur mon nom. Et en fait, le José, entre guillemets, c'est devenu le prénom usuel parce que mon grand-père s'appelait Joseph. Mm-hmm. Mais que ma mère, elle m'a donné Perseverancia. Et du coup, tout le monde a coupé à Percy dans le quartier.
Attends, Perseverance ou Perseverancia?
Perseverancia.
Waouh!
Wow. Ouais. Et donc, du coup, dans le quartier, tout le monde m'a coupé à Percy. Parce que elle, dans le quartier, c'était son nom à elle qui primait.
Ouais.
Et donc, du coup, en fait, quand je retournais dans le quartier de ma mère, dans lequel j'ai grandi avant de venir en Europe, tout le monde m'appelait Percy. Et donc, du coup, c'est pour ça que, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, avant, je m'appelais Djibril. Mais quand je suis arrivé au Congo et que j'ai passé le temps que j'ai passé là-bas, ça a complètement changé ma manière de percevoir les choses de la vie et j'ai changé de blase et je me suis appelé Percy. Pour faire référence à ma mère et aussi parce que j'ai trouvé que c'est un prénom qui me correspondait beaucoup dans ma vie.
Le persévérant, quoi.
Ouais. Parce que j'ai fait des études, je parlais des études, j'ai mis 12 ans, quoi, à les finir. Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé, Percy?
Je pense qu'au début, j'étais pas prêt, pour les études, parce que j'ai fini en droit, donc j'ai fait des études de droit, je fais
master en droit.
Merci. Je pense qu'au début, j'étais pas prêt, je pense que l'école, par rapport à certains types d'études, te prépare pas nécessairement. Moi, j'ai commencé l'université, donc c'était vraiment assez, t'es lâché complètement. Mm-hmm. Donc, je crois que la première année, c'était ça. Après, je pense qu'il y a quand même du racisme systémique.
Ouais.
Je l'ai pas connu à l'école. Donc, à l'école, vraiment.
T'étais à Bruxelles?
Ouais. À l'école, j'étais, vraiment dans l'égalité des choses. Vraiment, j'y croyais. J'y croyais, quoi. Je veux dire, j'étais dedans. Mm-hmm. Et puis, dès que je suis arrivé à l'université, ça a été un choc assez brutal parce que tu sens quand même une différence de traitement assez violente par rapport à certaines choses. T'as des propos qui sont complètement déplacés. T'as des mais c'est toujours entre quatre yeux. Tu vois, c'est jamais dans un cours ex cathedra.
C'est pas officiel.
Voilà, mais c'est quand tu vas aller voir ta copie, le prof il va te dire, écoute, franchement, je connais des étudiants de ta communauté, c'est pas pour vous.
Ah oui.
Ah ouais, non.
C'est violent ça.
C'est violent, c'est très violent. Et du coup, tu te dis, mais attends, c'est le même gars qui qui me parle du droit de l'égalité des chances qui me dit ça.
C'est le prof de droit éthique qui va te dire
Non, c'est
dingue.
C'est surréaliste. Et donc du coup, je pense qu'il y a eu ça aussi qui a joué. Tu vois, il y a eu des années où il y avait les points de balance et comme par hasard, moi je suis pas délibérable parce que pour une raison inconnue sur 8 cours, j'en ai 6 ou j'ai 9 sur 20. Tu vois, c'est genre 9, tout le monde te met un 9, tu vois, 6 cours sur 8 quand même, c'est bizarre. Tu vois, t'essayes de discuter avec des professeurs, t'en as certains qui ne te répondent même pas. Enfin, il y a eu toute une série de choses où à un moment donné, le message c'était un peu, t'as rien à faire ici, tu vois. Et moi, comme je dis toujours, comme j'ai dit à toutes les personnes qui m'ont demandé, mais pourquoi t'as pas arrêté à ce moment-là? J'ai dit, mais en fait, la seule personne qui peut arrêter, c'est toi. On peut pas te désinscrire d'un cursus, on peut pas te retirer sans faute grave d'un cursus. La seule chose qu'on peut faire, c'est te décourager pour que toi t'arrêtes.
Mmh. Et vu que tu t'appelles Percy,
là-bas, ils savaient pas à qui ils avaient affaire. Et
donc, du coup, moi, j'ai pas lâché. C'était dur, hein, franchement. Hein, bon. Parce que moi, faut savoir qu'à l'école, j'étais un peu entre guillemets l'intello de service. Donc, ça veut dire que j'ai fait ma scolarité en une traite et je suis arrivé dans les études supérieures hyper méga confiant. Donc, je peux vous assurer que le mur que je me suis pris au niveau de l'ego, au niveau de la confiance en soi, au niveau du mental. C'était ça te brise quand même. Mais j'ai vu beaucoup de gens être brisés par le système quand même. Jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai déjà des gens avec qui j'ai commencé l'UNIF qui s'en sont jamais remis. Et en fait, quand tu quittes le truc et que tu l'as pas terminé et que t'es parti un peu la tête baissée, c'est un peu comme on parlait de sport, c'est un peu comme un combat de boxe. Quand tu quittes un combat où on t'a mis KO, le plus difficile c'est de remonter sur le ring. Tu vois, c'est quand tu quittes un cursus où t'as raté mal avec je sais pas moi une moyenne de 6 sur 20, même si 10 ans après t'as envie de reprendre les études,
comme si ça t'avait défini
exactement, tu vois, ça t'a marqué en fait. Et c'est quel mental tu as pour revenir et te dire ok, c'était une version de moi qu'on a essayé de m'imposer et moi je vais imposer une version de moi que je veux être. Et c'est tout ce process-là, en fait, les 11 ans, tu vois. Parce que pour te dire, et il est témoin, lui, parce qu'il a tout vécu avec moi. Il était là à ma proclamation, il était là à la défense de mon mémoire. Et il faut savoir que moi, pour mon mémoire, donc je galère comme un fou pendant mon bac. J'arrive en master, je me dis, c'est bon, ça va aller. Je fais mon mémoire et on me fait rater mon mémoire en plein Covid. Donc la première année Covid où toutes les universités étaient fermées, où on n'avait pas accès au serveur parce qu'il arrêtait pas de sauter vu qu'il n'était pas fait pour ça.
Aïe.
Moi, je l'ai quand même rendu. En cherchant des sources via des sites, j'ai payé des sites français pour avoir des sources, enfin bref. Voilà.
C'était une galère, quoi.
Voilà, une galère de fou. Et en plus, bon, voilà, vous rappelez bien, le Covid, on était tous angoissés, on était tous, on savait pas trop si on allait réouvrir le monde un jour.
Ouais.
Je dépose mon mémoire et voilà, première session, on met 9 sur 20.
Il y a un truc avec les 9, hein.
Ouais, en fait, c'est juste la cote où t'as pas réussi, quoi.
Ouais. Vois, c'est juste en dessous.
Ouais, juste en dessous, tu vois. C'est toujours juste en dessous. C'est pas 8, c'est pas 7, c'est 9, tu vois.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont pas remis leur mémoire et qui ont été, sont passés entre les mailles du filet?
Non, t'es obligé de remettre ton mémoire. Ceux qui ont pas remis leur mémoire, ils l'ont remis en deuxième session.
Mm-hmm.
Donc, du coup, moi, j'ai eu 9. J'ai été voir le professeur.
Mm-hmm.
Qui m'a dit, OK, c'est pas moi le problème, c'est le lecteur.
Ah.
Ouais. Donc, en fait, j'ai été voir mon directeur de mémoire qui m'a dit, moi, ton mémoire, il est bon, mais le lecteur, il...
C'est qui le lecteur, du mémoire? C'est quelqu'un d'autre de l'établissement?
Ouais. En fait, souvent, pour les mémoires, t'as toujours un lecteur externe.
Ouais.
Qui est souvent relié un petit peu quelque part à ton sujet.
À ta matière.
Qui a les mêmes centres d'intérêt que ceux.
Ouais.
Mais qui connaît la matière.
Voilà.
Okay. Et puis, il y a souvent le président du jury.
Ouais.
Je sais pas comment ça se passe. T'étais à l'ULB.
Ouais. En fait, du coup, nous, c'était pas trop ça. Parce que, en plus, on était en Covid. Donc, en fait, on avait juste le lecteur et le directeur de mémoire.
Le directeur de mémoire, en général, c'est celui qui t'a accompagné pendant un peu ton parcours. Donc, il est censé te défendre un petit peu.
Ouais. Voilà. Et donc, du coup, là, les lecteurs, bon, dans la hiérarchie de l'institution, le lecteur avait quand même beaucoup plus de poids que mon directeur. Mmh. Donc, en gros, quand le lecteur lui dit non, ça passe pas.
Il peut pas faire grand chose.
Ça passe pas. Donc, du coup, il m'a mis un 9. Donc, j'ai été voir mon directeur de mémoire qui m'a dit, va voir le lecteur. J'ai été contacter le lecteur. Il m'a dit, oui, bon, écoutez, ça qu'il faut modifier. J'ai modifié ça.
Ah.
J'ai réussi mes autres examens. Donc, je devais juste réussir mon mémoire. J'arrive en seconde session, il me remet 9.
Non!
Ouais.
C'est pas possible.
Du coup, j'ai passé une année, à refaire mon mémoire pour un point.
Well damn. Et tu l'as eu ou pas?
Ouais, je suis plus là-dedans, hein. J'ai fini.
Et il t'a mis 10 ou il t'a mis 14, tu vois?
Il m'a mis 14.
Ah, bien senti,
il m'a mis 14, mais après, si je dois vous expliquer, lui, il était là, hein, pendant la défense de mémoire. En fait, en gros, il m'a fait rater. Il m'a dit tout ce qui allait pas dans mon travail de l'année d'avant. Et puis en fait, moi, c'était un projet de loi, ma matière, mais elle devait être votée en assemblée. Et en fait, elle a été votée entre les deux années.
Ah bien.
Et donc du coup, en fait, le projet de loi, moi, je défendais la position qu'il fallait refuser ce projet de loi.
Ok.
Le projet de loi a été refusé. Du coup, l'année d'après, quand je défends mon mémoire,
oui, c'est déjà. Bah,
sa première question, c'est en fait à quoi sert votre mémoire vu que le projet de loi, il a déjà été refusé.
Oh my god.
C'est sa première question de défense orale.
Alors qu'il était déjà là.
Voilà. Ouais. Tu vois, donc.
Mais parfois, il y a des profs comme ça qui te mettent un peu des bâtons dans les roues. C'est aussi parce que ici, là, voilà, c'est. Enfin, je pense que partout, moi, j'ai aussi une copine qui a fait un mémoire plutôt sur un sujet un peu axé sur le féminisme. Mmh. Et en effet, le lecteur était pas du tout
d'accord, ouais.
Pas du tout là-dedans.
Ah, merde.
Et donc il l'a défoncé vraiment pendant toute sa défense de mémoire en me disant mais enfin en même temps quelle est la place de la femme là-dedans?
Il est déjà biaisé, c'était par rapport à son avis personnel.
Ouais, sauf que elle, c'était justement son sujet. Où elle, pourquoi est-ce que la femme n'a pas sa place dans le milieu, enfin bref. Mmh. Donc non, parfois il y a des profs qui
c'est
difficile
c'est au mental. Franchement, mm-hmm. Moi je comme Sébastien l'a dit, c'est au mental. Franchement, pour moi les études, l'art, le sport,
la vie.
C'est au moins c'est franchement on se rend pas compte, et moi c'est le sport qui m'a appris ça aussi, à quel point en fait le conditionnement mental il est important.
Ah, tu fais du sport aussi, personne.
Bah ouais, j'en faisais, là je suis dans une blessure. Ouais, je viens d'avoir une blessure au tendon d'Achille, donc c'est un peu cuit pour moi là pour l'instant, parce que je dois me faire
opérer. Tu faisais quoi alors?
Du basket.
Ah, du basket.
Ouais. Et donc du coup c'est quand même quelque chose qui m'a permis d'apprendre la discipline et accepter la souffrance dont parlait Sébastien. Mm-hmm. Bah il faut, enfin voilà, je veux dire pour atteindre des résultats, il faut faire des efforts, et les efforts ça se fait dans la douleur. Il faut accepter.
On peut pas y échapper.
Si on veut atteindre certains résultats, il faut accepter d'avoir mal, quoi.
C'est ce que tu disais, Sébastien Maya, qui court partout dans le monde, qui fait des 100 km en 10 heures. Qu'est-ce que c'est que cette cadence exceptionnelle? On est choqués, parce que c'est vrai que tu nous as dit là tout à l'heure que t'as fait, 100 km en 10 heures?
C'est ça, oui. Donc, 100 km en 10 heures.
C'était récemment, c'était là, hein.
Récemment, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était il y a moins de 3 jours.
Voilà, et tu étais à New York, et là t'es ici, et tu as complété en plus ces 100 km par un autre petit run d'échauffement de 25 km.
Un petit truc de rien du tout, en aux fait, États-Unis.
C'est ça, oui, pour la petite anecdote, ben, c'est pas tous les jours qu'on va à New York, donc j'ai voulu un peu rentabiliser un peu le voyage sur les 48 heures sur place. Et donc, ben, j'ai anticipé, donc j'avais, avant de partir, j'avais également réserver des tickets pour voir la Coupe du Monde des clubs qui se passe pour le moment aux États-Unis. Donc là, ça tombait bien, il y avait quelque chose dans le coin de New York, enfin plus précisément à New Jersey.
Ouais.
Et ensuite le lendemain, je me suis dit, ben pourquoi pas, si je suis encore vivant entre guillemets, ben j'ai encore enchaîné avec une autre compète,
oh,
un 21 km. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc quand j'ai fini le 100 km, ben j'étais un peu capoute pendant une heure. Je me suis un peu reposé.
Une heure. Tu nous fais rire, Sébastien. Tu nous fais rire.
J'ai rechargé mes batteries comme un vieux téléphone. Et ensuite j'ai appelé un taxi et hop pour me déposer au stade de foot pour voir le match. Et puis la soirée je l'ai passée à Times Square. Et puis le lendemain, ben j'avais un peu mal aux jambes, c'est le moins qu'on puisse dire. Hop, j'ai pris un autre taxi pour du côté du Queens. Et là, ben j'ai fait le 21 km et c'est vrai que c'est un peu surréaliste, mais en fait j'ai terminé deuxième de la course.
Wow. Wow.
Impressionnant, exceptionnel.
Premier pour nous, hein.
Le premier
pour nous, t'es le premier.
Waouh.
Et enfin voilà, donc deuxième c'était le lendemain, mais par contre oui c'est ça, le 100 km, mais là j'ai eu le bonheur de le gagner, donc
c'est deux victoires dans le même week-end. Il commence en teasing,
ouais.
Deuxième sur le 21 km et premier,
voilà, crescendo, ouais.
T'as gagné les 100 km,
c'est ça, Bastien. Exactement, oui,
c'est ouais. Dingue, mais je trouve que déjà gagner les 100 km c'est absolument c'est incroyable, mais gagner aussi, enfin être sur le podium le lendemain après avoir couru 100 km, c'est tout aussi formidable.
Je trouve magnifique.
Il faudrait que tu nous expliques la manière dont tu t'entraînes.
Tu vas nous dire ça.
Est-ce que tu manges? Comment tu fais pour te préparer? Parce que je suis.
Et aussi les heures de sommeil, du coup.
Ouais.
Ouais, mais là, il m'en manque pas mal. Hein.
Wow.
Ouais, mais tu t'apprêtes à courir hein. 200 km demain.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai, c'est quoi ton temps de repos là? Justement, t'es revenu donc sur le vieux continent. tu vas te reposer un peu, Sébastien, ou pas?
Oui, en rentrant, mais c'est vrai que on va dire que mon corps, ben, c'est comme dans tout, il s'habitue un peu. Et c'est vrai que je suis professeur de dessin à Bruxelles. Et c'est vrai que j'ai l'habitude, enfin, j'ai une mauvaise habitude, je ne sais pas dormir avant minuit. Mm-hmm. Et donc, ça fait depuis plus d'un an qu'en général, mon corps est habitué à dormir, peut-être 4-5 heures par nuit tout le temps. En fait, il y a qu'un jour par semaine où je sais dormir, c'est la nuit du vendredi au samedi. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment où, enfin, en gros, le samedi, c'est le jour où je ne fais pas de compète, mais le dimanche, il me faut vraiment ma compétition. Et donc, en général, la compétition, ben, c'est le dimanche matin. Donc, je ne sais pas faire une grasse matinée. Donc, le seul moment où je sais vraiment dormir correctement, c'est la nuit du vendredi au samedi. Mm-hmm. Et le reste, en fait, mon corps est habitué à être à X%, quoi.
Mais est-ce que tu fais des siestes, alors, en plus de tes 4-5 heures de nuit? Est-ce qu'à un moment donné, pendant la journée, vers 16h, 17h, tu sens que t'es un peu plus mou et que t'as besoin de faire une petite sieste, même 26 minutes, comme le suggère la NASA?
Ben, pour l'anecdote, en fait, là, je suis venu avec un pote, Bruno. Et en fait, avant de vous rejoindre, j'ai dormi 20 minutes dans l'auto.
Ah oui, quand voilà, il a conduit. Bruno, prends le micro, Bruno. C'est un pote, mais c'est notre pote à tous. Ça va, Bruno? Il faut que tu remontes le micro. Non, c'est pas toi qui dois te baisser vers le micro, c'est le micro qui vient à toi. Ça va, Bruno?
Ça va très bien.
Dis. Cool. Ben oui. Toi aussi, t'es un sportif de haut niveau. Tu cours aussi beaucoup depuis toujours?
Oui, enfin, je suis un ancien joueur de foot, on va dire.
Un ancien joueur de foot, c'est vrai.
La compète, course route, permet effectivement de rester. Allez, d'avoir des challenges, voilà, c'est ça, de rester dans des compètes, en fait. Moi, j'aime pas les entraînements, j'adore les compètes. On arrête le foot, mais on a envie de, je sais pas, de se mettre des buts, voilà. Mm-hmm. Tu vois, rien n'est gagné d'avance, on se lance et on essaie de faire de son mieux, voilà, c'est tout.
Moi, je suis très admirative, des gens qui courent, parce que, enfin, qui courent sans but, entre guillemets, même si le but, c'est la ligne d'arrivée. Les sports collectifs, le foot, le tennis, bon, voilà, enfin, il y a un échange. Mais là, t'es un peu seul avec, c'est seul contre toi-même, en fait, même si tu es contre la personne qui est devant toi. Enfin, Maya, il a des gens derrière lui, mais... Mais tu vois, c'est très difficile. Je trouve ça très violent, quand même. Mais c'est brutal.
Fait, pour justement revenir à ce que tu dis, le truc, c'est que c'est vrai que je suis... En général, on conseille aux débutants, aux néophytes, de bien s'entraîner, faire beaucoup d'entraînement et faire une compétition une fois par semaine ou une fois toutes les 2-3 semaines, parce que c'est pas l'idéal. Mais c'est vrai que je fonctionne en fait à l'opposé, c'est-à-dire que c'est vrai qu'effectivement la course à pied à la base c'est un sport individuel, mais moi j'ai besoin de le faire dans un contexte de compétition. Donc m'entraîner tout seul, en fait, ça fait déjà pas mal de mois, pas mal d'années qu'en fait je ne prends plus du plaisir. Et en fait, quand je cours, en fait, c'est toujours dans un contexte de course à pied. Donc en fait, mes compètes, ce sont mes entraînements. Et pour d'ailleurs, donc pour préparer New York, donc les 100 km que j'ai gagnés, qu'est-ce que j'ai fait comme entraînement? Concrètement, je n'ai pas été courir en solo du côté de Namur. Ça me stimule pas du tout. J'ai enchaîné des marathons. En l'espace de quelques semaines, j'ai enchaîné des marathons un peu partout. On parlait de l'Italie, je pense, tantôt. Enfin, j'ai couru du côté de Bologne. J'ai fait des marathons un peu partout. J'ai